Radio Kapi. Oh, Kapi.
Un certain calme règne depuis ce lundi matin à Bukavu après l'occupation de la ville par le 1-23 soutenu par l'armée rwandaise, mais les activités n'ont pas repris. Écoles, commerces et bureaux administratifs restent fermés. Une cinquantaine d'agents de la CNPR, Commission nationale de prévention routière de Mbujimayi, réclament leur mécanisation ainsi que des salaires de près de 9 ans, sans oublier la prime pour les services rendus. Le directeur provincial parle, lui, de volontariat comme base de recrutement de ses agents, mais il rassure que les démarches sont entreprises pour que leur statut puisse changer. Professeur Jean-Pierre Ilboudo est l'invité de ce journal. Cet ancien représentant de l'UNESCO va parler de la radio en marge de la journée dédiée à ce média le 13 février. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu-Kabambi. La ville de Bukavu s'est réveillée dans le calme ce lundi après son occupation par le 1-23 soutenu par l'armée rwandaise, mais les écoles, les commerces et autres bureaux administratifs n'ont pas ouvert leurs portes. Alain Irung.
Le boulevard Patrice-Emery Lumumba ne connaît pas son ambiance habituelle. Les véhicules s'y comptent au bout des doigts. Les transporteurs observent encore l'évolution de la situation. À défaut des bus et des taxis qui habituellement assurent le transport en commun, les taxis-motos, jadis interdits de circuler sur le boulevard, inondent l'artère principale du centre-ville. Les maisons de commerce vandalisées par les pillages la veille de la chute de la ville de Bukavu attirent plusieurs curieux. Les radios locales diffusent la musique à longueur de journée depuis que les autorités politiques et militaires ont quitté la ville de Bukavu. Les établissements scolaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre, disent les parents, les enseignants et les gestionnaires d'écoles. La même attitude est observée au sein des institutions financières. Les hôpitaux organisent chacun un service minimum pour assister les malades. C'est le cas de l'hôpital général de référence de Bukavu où le CICR réfère toutes les personnes blessées par balle.
Pendant ce temps, le comité international de la Croix-Rouge est au chevet des blessés dans la ville de Bukavu. Ce sont des personnes blessées par balle lors de la prise de la ville par le 1-23 avec le soutien de l'armée rwandaise. 20 blessés au total ont déjà bénéficié de premiers secours du CICR. Blaise Ndongala Mayanda pour les détails.
Le comité international de la Croix-Rouge mentionne que ses équipes sont déployées sur terrain dans la ville de Bukavu et ses environs afin d'apporter les premiers secours aux éventuels blessés et autres personnes en besoin de secours. Toutefois, le CICR redoute les contextes difficiles dans lesquels il mène le travail dans la ville de Bukavu. Pendant la période du 14 au 16 février courant, cette organisation internationale a répertorié 22 blessés dans la ville de Bukavu à la suite des tensions ayant précédé la prise de la ville par les 23. Ces blessés étaient à 22 au départ. Fort malheureusement, deux d'entre eux sont morts avant d'atteindre l'hôpital général de référence de Bukavu pour une prise en charge. Les équipes du CICR signalent également qu'elles demeurent en alerte au regard de la situation sécuritaire qui prévaut à Bukavu avec l'entrée des rebelles dans cette ville.
Au Burundi voisin, une centaine de jeunes congolais ont été regroupés par les autorités burundaises à Bujumbura, la capitale. Selon des témoins, ces jeunes sont rassemblés dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC au Burundi, mais ils n'ont rien à manger sur place. En majorité, ce sont des jeunes congolais étudiants au Burundi. Le porte-parole du groupe précise qu'ils sont en ordre avec les services migratoires du pays. Nous n'avons pas encore réussi à avoir les avis des autorités des deux pays, le Burundi et la RDC. Après 4 semaines environ de perturbations dues à la guerre entre les M23 et les FRDC en pleine capitale lacustre, c'est la reprise effective ce lundi 17 février à Goma des cours dans plusieurs écoles, notamment dans des écoles primaires privées. La guerre a provoqué des mouvements importants des élèves vers des lieux sécurisés. Les parents d'élèves en déplacement sollicitent les facilitations auprès des chefs d'établissement scolaire en faveur des enfants qui ont fui la guerre du M23 pour terminer l'année en beauté. Denise Luc.
Cette reprise est beaucoup plus observée dans des écoles privées après une semaine de révision et de nettoyage des infrastructures légèrement affectées par les effets de la guerre, comme c'est le cas du complexe scolaire Un Jour Nouveau et au lycée Tchemtchem. Les lycéennes ont répondu aussi présentes pendant cette période des examens du premier semestre. Cependant, beaucoup de parents dubitatifs hésitent toujours d'envoyer leurs enfants, craignant l'environnement sécuritaire qui n'inspire pas confiance selon eux. Pendant ce temps, beaucoup d'élèves et écoliers restent toujours en déplacement. Certains se trouvant à Kinshasa, la capitale, aux côtés de leurs parents, se questionnent toujours pour leur sort alors que 3 mois seulement séparent de la fin de l'année scolaire 2025. Certains parents plaident auprès du ministère de l'EPST de faciliter la réinscription de leurs enfants afin de ne pas perdre cette année scolaire.
Dans le Maniema, le gouverneur de cette province appelle ses administrés au calme. Moussa Kabouankoubi Moïse lance cet appel après la rumeur qui a circulé le week-end, selon laquelle les militaires avaient tous quitté l'aéroport national de Kindu. Le gouverneur de province s'est dépêché à l'aéroport pour s'imprégner de la situation. Sur place, il a trouvé que tout est calme et tous les services fonctionnent normalement. Moussa Kabouankoubi Moïse explique qu'il s'agissait plutôt d'une relève des militaires formés au camp Luama. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Nous sommes là au tarmac de l'aéroport de Kindu. Nous sommes venus pour assurer la population parce qu'il y avait une psychose selon laquelle l'aéroport était dégarni de militaires. Donc nous sommes là. Tous les dispositifs sécuritaires mis en place à l'aéroport est là, et fonctionnel et opérationnel. Et il y a même l'avion de la compagnie Cerver qui vient d'atterrir. Là, on est en train de décharger de la marchandise et bientôt on va charger et l'avion va décoller. Que la population soit calme, qu'elle puisse vaquer à ses occupations. Tout est calme ici à l'aéroport et tous les dispositifs sécuritaires mis en place est intact. Donc il s'agissait d'une relève de militaires formés chez nous ici au camp Luama. Il s'agit d'une simple manœuvre militaire et toute la situation est calme et sous contrôle.
Retour au Nord Kivu, la situation sécuritaire demeure relativement calme à Lubero Centre, malgré quelques attaques de groupes armés locaux et de combattants du M23. Affirmation hier à Radio Okapi du colonel Alain Kiwewa. L'administrateur du territoire de Lubero demande à la population de ne pas paniquer, mais de faire confiance au FRDC. C'est à la suite de la psychose qui règne depuis plusieurs semaines dans la région où la population craint une attaque du M23. Le colonel Alain Kiwewa a été joint au téléphone par André.
La situation sécuritaire en territoire de Lubero est relativement calme. Il y a une psychose qui règne auprès de la population de Lubero. Néanmoins, je vous rassure que cette population est forte et cette population a pleinement confiance à nos forces de défense et de sécurité. Ils sont rassurés que nos forces de défense et de sécurité vont le sécuriser. Donc, ils ont vraiment confiance et je les appuie également. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec cette population, je leur recommande toujours d'avoir confiance aux autorités politico-administratives et d'avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité. Parce que notre cause est juste. Moi, je vous rassure que le Congolais est victorieux, le Congolais sera toujours victorieux. Quel que soit le mouvement, moi je sais que cette aventure va terminer un jour.
Le mouvement radical pour le changement MRC, plateforme politique engagée dans la réforme démocratique de la RDC, décèle des faiblesses et quelques forces dans le pacte pour la paix et le vivre ensemble qui a été proposé ce week-end par la délégation CENCO-ECC à Bruxelles. Coordonnée par les opposants politiques Franck Diongo et Jean-Claude Vuemba, cette plateforme analyse et propose une transition politique inclusive et durable dont l'objectif est de contribuer à restaurer la paix sociale, l'unité nationale et la réconciliation du peuple congolais tout en soutenant les principes du pacte CENCO-ECC. L'économie du cahier des charges du MRC publiée après sa rencontre avec le prince de l'église, avec vous Jeff Ngoy.
Parmi les points forts de l'approche du CENCO-ECC, le mouvement radical pour le changement souligne la reconnaissance de la nécessité d'un dialogue national inclusif, une médiation neutre par les églises catholiques et protestantes, assurant la crédibilité, la confiance et la volonté de résoudre pacifiquement les conflits. Au niveau des faiblesses, il note l'absence de mécanismes clairs de mise en œuvre et de suivi, la sous-estimation des causes profondes de la crise, notamment institutionnelle et sécuritaire. S'agissant des facteurs internes à la crise que traverse renverse la RDC. Ce mouvement épingle la crise de légitimité politique et institutionnelle marquée par une gouvernance autoritaire et une corruption généralisée, le dysfonctionnement du processus électoral et la perte de confiance de la population. Sur le plan externe, il note l'ingérence étrangère et l'exploitation illégale des ressources du pays. Le MRC en appelle ainsi à reconnaître que la constitution actuelle ne peut pas gérer seule la transition de 2 à 3 ans qu'il propose et qu'une charte transitoire temporaire est nécessaire.
Grogne à la Commission nationale de prévention routière de Mbujimayi au Kassai oriental. Une cinquantaine d'agents de la CNPR réclament leur mécanisation, leur salaire de près de 9 ans, ainsi que la prime pour les services rendus. Le directeur provincial de ce service indique que ces agents ont tous été recrutés comme volontaires. Néanmoins, les démarches sont entreprises pour le changement de leur statut. Explication avec Esther Ndalafina.
Dans un mémorandum adressé la semaine dernière au ministère des Transports, Voies de communication et des enclavements et dont les copies ont été déposées dans les médias locaux, ces agents de la CNPR Kassai Oriental affirment avoir été recrutés depuis 2016. Depuis lors, ils n'ont reçu ni les frais de fonctionnement et moins encore les salaires de 9 ans ainsi que la prime de prestation. Ils réclament également leur mécanisation à la fonction publique. Contacté, Roger Chilombo, directeur provincial de la CNPR Kassai Oriental, indique que ces agents ont été recrutés comme des volontaires.
La revendication de sa prime et de son salaire, c'est un droit inaliénable. C'est un cas général de toutes les directions provinciales. Ils ont des notes où ils sont reconnus comme agents volontaires. Mais il y a des efforts que nous déployons par la voie administrative, la voie légale. Nous écrivons au nouveau comité directeur que l'on vient de mettre en place.
Signalons que ces agents de la CNPR ont été associés aux travaux de signalisation horizontale et verticale par le marquage au sol des artères asphaltées sur la ville de Mbujimayi par l'entreprise Safrimex. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En RDC, un enfant sur 10 a une forte probabilité de mourir avant d'atteindre son 5e anniversaire. 9% de femmes congolaises de 15 à 49 ans souffrent d'hypertension artérielle contre 14% chez les hommes de 15 à 49 ans et contre 29% chez les hommes âgés de 50 à 59 ans. C'est ce qu'indique le rapport final de l'enquête démographique et de santé EDS RDC 2023-2024. Rapport rendu public la semaine dernière au cours d'une cérémonie placée sous le haut patronage de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Professeur Bernard Lututala Mumpasi, coordonnateur national de l'EDES RDC 2023-2024, revient sur la pertinence de cette enquête pour la RDC. Il est au micro de Stanislas Diumi.
Ce rapport produit des indicateurs sur la situation démographique et de la santé dans notre pays. Ce sont des chiffres, mais c'est à partir de ces chiffres-là qu'on doit savoir qui nous sommes, nous les Congolais, quels sont les problèmes que nous avons dans les secteurs qui nous concernent, de la santé, de la démographie. Vous savez, on ne bâtit jamais une nation sans faire la planification. Et la planification, ça se fait à partir des données. C'est à partir de données qu'on sait voici ce que nous sommes, voilà là où on peut aller à partir de ce que nous sommes. Et donc, j'espère vraiment que ces données vont être utilisées dans les processus de planification du développement de notre pays. C'est des données extrêmement riches. Vous avez vu le volume du rapport? C'est plus de 900 pages. Donc, mon souhait est que vraiment ce ne soit pas un rapport qui va seulement dormir dans les tiroirs, mais qui va vraiment être exploité par tous ceux-là qui font la planification.
Actualité internationale.
10 personnes sont mortes et 8 blessées ce lundi dans l'effondrement d'un immeuble dans le quartier populaire de Kerdassa à Gissée, au Caire en Égypte. Selon des témoins, c'est l'explosion d'une bouteille de gaz qui a provoqué cet effondrement et des enquêtes policières sont en cours. Les réglementations en matière de construction sont appliquées de manière inégale dans la métropole du Caire qui abrite plus de 26 millions d'habitants. La ville a connu des effondrements mortels d'immeubles ces dernières années, à la fois en raison de l'état de délabrement de certains entre eux et parfois du non-respect des réglementations en matière de construction.
L'invité.
Le Monde a célébré le 13 février la journée dédiée à la radio sous le thème « Radio et changement climatique ». Ancien représentant de l'UNESCO en RDC et enseignant des cours sur la pratique de la radio, professeur Jean-Pierre Ilboudot souligne qu'avec l'apport du digital, les praticiens de la radio doivent se former et se renouveler pour s'adapter à la mutation. Le professeur Jean-Pierre Ilboudot est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec François Kadima.
Professeur Jean-Pierre Ilboudot, bonjour.
Bonjour.
Quel rôle la radio joue dans ce monde en mutation?
Disons que la radio a un rôle crucial. C'est un agent important de sensibilisation et d'information sur le changement climatique et les questions environnementales. Parce que, voyez-vous, on a trop sous-estimé la question des gaz à effet de serre. On a sous-estimé toute la pollution que l'homme fait, la déforestation. Et aujourd'hui, les températures sont montées. Dans le monde, on est dans une situation tellement grave. Les températures sont tellement montées qu'on a des inondations de gauche à droite, chaque année, même en Europe. Les glaciers sont en train de fondre, la mer est en train de monter, de ravager même des villages, et des feux de brousse partout, des incendies. Alors, vous savez, la Californie, tout ça, c'est des questions qu'on aurait dû régler depuis. Mais quel est l'outil le plus accessible, le moyen qui permet à un citoyen lambda, commun des mortels, je ne parle pas de ceux qui ont les moyens d'avoir la télé, qui ont l'électricité, mais ceux-là qui sont partout dans les coins isolés, et marginalisés, qui sont la majorité des gens dans ce monde, ben c'est la radio. C'est pourquoi il faut qu'on puisse renforcer la capacité des gens qui font la radio, qu'on puisse leur donner les moyens matériels importants pour qu'ils puissent faire une couverture sur la question du changement climatique, mais surtout qu'on puisse aussi les former sur le contenu de la du changement climatique.
Ancien représentant de l'UNESCO, enseignant et professionnel de la radio, est-il important de célébrer la journée de la radio à ce moment où la technologie a évolué avec toutes les nouvelles plateformes qui font circuler l'information?
En 2012, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé qu'on va fêter la journée de la radio, l'UNESCO avait déjà en 2011 fait la soumission de la résolution par rapport à ça. Si l'ensemble des pays membres des Nations Unies a décidé donc qu'il fallait fêter la radio, c'est que la radio est un outil très important. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de prophéties sur la radio, sur l'imprimé. McLuhan disait que la galaxie Marconi, radio, tout ce qui est nouvelle technologie, va phagocyter l'imprimé et l'écriture. Mais c'est pas vrai. On voit qu'aujourd'hui, ça continue, c'est des trucs complémentaires. Mais c'est que les ingénieurs aussi et les techniciens ne sont pas dupes. Ils ont profité des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils ont profité du digital. Ils ont fait en sorte que la radio devienne quelque chose de plus spécial avec l'apport du digital. On fait le webcast. Est-ce qu'on parlait de webcast avant? On peut écouter radio du UK ici, à Washington, parce qu'on a mis un truc de webcast. Donc, ça veut dire que les nouvelles technologies ne sont pas venues en sorte que la radio disparaisse ou la mettre en difficulté. Elles sont venues pour renforcer même sa capacité. Et je crois qu'aujourd'hui, la radio profite très bien du digital et du numérique.
Vous pensez qu'elle s'adapte réellement aux exigences actuelles avec la nouvelle technologie? Si c'est pas ça, qu'est-ce qui doit être fait?
Si c'est pas ça, rien ne peut être fait, parce que regardez un peu l'archéologie de la radio, ça a commencé à fin 1920, déjà dans les années 1800 au 19e siècle, il y avait des chercheurs comme les Popov, comme les Henry Hertz qui ont fait le faisceau hertzien et d'autres de plusieurs pays qui ont contribué à amener tout ça. Et aujourd'hui, on était à l'analogique, on avait les zones courtes, on avait les zones moyennes, maintenant on a un confort d'écoute extraordinaire avec la FM, donc ça veut dire qu'il y a une progression. La radio est une technologie qui va continuer de progresser. On ne peut pas croire que la radio va rester statique, parce que on continue de réfléchir sur comment faire pour que cette technologie-là, qui est la plus accessible, je dis bien la plus accessible par rapport à l'ensemble des autres médias, reste valable et disponible pour la majorité des populations.
Partons de réalité en RDC, quels sont les éléments qui peuvent être pris en compte par les praticiens de la radio pour améliorer l'offre médiatique?
Moi, je crois que là, c'est la formation. Il faut renforcer les capacités des gens. Il faut une formation initiale, certes, mais il faut le recyclage régulièrement. Il faut qu'ils soient au courant, des nouvelles découvertes relative à la radio, et il faut également qu'il reste aussi sur les principes de l'équité, de la déontologie, de l'éthique. C'est-à-dire que on travaille sur les faits, on les triangule, on vérifie les sources.
Professeur Jean-Pierre Ilboudot, nous vous disons merci.
Je vous remercie aussi.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu. La mise en onde est signée Alain Goy. La coordination était assurée par Élisée Chikota, supervisée par Alain Irung. Je vous laisse en compagnie des autres programmes de Radio Okapi.